C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue aujourd'hui. Bienvenue à vous toutes et à vous tous en cette église et particulièrement à toutes celles et à tous ceux qui prennent part au culte dans ce temple pour la première fois. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Le Seigneur est présent parmi nous. Que la paix et la grâce vous soient multipliées en abondance. Amen. Pour le déroulement du culte de ce dimanche 23 août, nous chantons les spontanés et les deux cantiques dont les numéros sont affichés au tableau. Ceux qui le peuvent, veuillez vous lever. Le premier spontané. Nous te louons pour ce jour de grâce et cette heure mise à part dans notre vie. Voici le temps de paix, de louange et d'écoute. Un temps heureux où par ton esprit nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Peuple de Dieu, tu peux compter sur le Seigneur. Vous tous, il adorait, comptez sur le Seigneur. Il se souvient de nous et nous bénit. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Nous poursuivons notre adoration par le cantique numéro 100B. Les trois premières strophes, page 117. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Dieu d'amour, c'est souvent loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Change notre cœur et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Permets que nous puissions consoler et guérir là où nous avons méprisé et blessé. Veuille réparer toi-même le mal que nous avons causé et dont les conséquences sont hors de notre portée. Accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée, afin que ta lumière rayonne à travers nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Amen. Le spontané. Je vous invite à vous mettre debout pour écouter les paroles de grâce. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de leur pardon. En effet, voici ce que nous dit l'apôtre Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait foi en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme est ainsi venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher avec joie vers son royaume. Chantons ensemble notre reconnaissance, toujours en position debout. Pardonné et libéré, voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le spontané.
Thank you.
vous asseoir. Avant d'écouter la lecture des textes bibliques, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie, nous prions Dieu. Père, voici venu le moment favorable pour écouter ta parole qui est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton Esprit Saint, nous sondions le mystère de cette parole. Nous la recevions avec simplicité et avec joie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous demandons à Christophe de nous conduire dans la lecture de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 15, les versets. Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 20.
Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples : Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Ils répondirent : Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est en Christ. Eh bien, moi, je te le déclare, tu es Pierre, tu es cette pierre, je construirai mon église sur cette pierre. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu exclueras sur terre sera exclu dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux. Puis Jésus ordonna sévèrement à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie.
Bienheureux, pour mieux saisir l'essentiel de l'entretien de Jésus avec ses disciples qui aboutit au dévoilement de son identité, je vous propose d'étudier ensemble cet extrait de Matthieu 16, les versets 13 à 20. Selon une méthode de lecture en trois étapes. Première étape, observation. Elles sont au nombre de trois. La première observation du texte fait découvrir que sur le plan onomastique, il y a Jésus qui s'adresse aux disciples désigné par le pronom personnel « vous ». Et sur le plan topographique, la scène se passe à Césarée de Philippe, une ville païenne située au nord de la Galilée, près des sources du Jourdain. Cet entretien à huis clos est christocentrique, c'est-à-dire centré sur Jésus, Christ, Jésus le Christ, et montre que les disciples, par la bouche de Pierre, ont reconnu et confessé leur Seigneur comme le Christ avant la Passion. Cela ne veut pas dire que le voile de l'ignorance est déchiré totalement. Cela ne veut pas aussi dire que la croix ne les fera pas vaciller, puisque Pierre ira jusqu'à renier. Mais ce ne sera qu'un acte unique et éphémère de faiblesse. Après les larmes, sa conversion et surtout après la résurrection, le même Pierre confessera à nouveau Jésus comme le Christ et deviendra même le porte-parole des douze. Deuxième observation. Pour la première fois, Jésus interroge ses disciples sur sa personne et Pierre confesse explicitement la dignité messianique du Maître. Pour la première fois également, Jésus annonce ses souffrances et sa résurrection. De plus, sitôt après cette péricope, l'on voit en effet le récit se concentrer sur le thème de la Passion de Jésus. Et en ce sens, Oscar Kuhlmann a le mérite d'insister fortement sur la conjonction ou le lien organique entre le récit de la confession de Pierre et celui des annonces de la Passion par Jésus. Ainsi donc, les disciples doivent apprendre à passer de Jésus le Messie à Jésus le Messie souffrant. Et enfin, troisième observation. Dans la structure de la péricope, cette confession est immédiatement assortie de deux avertissements qui seuls lui donnent sa portée évangélique. Premièrement, la messianité de Jésus ne doit pas être dite aux hommes, du moins pas avant la Passion. En réalité, la révélation de Dieu ne passe que par la croix, car elle est le lieu par excellence où il dévoile son identité. Deuxième étape de notre parcours, la compréhension. En effet, Jésus amène ses disciples à Césarée de Philippe pour les éloigner des Juifs. Jésus pouvait y poser la question messianique avec moins d'hésitation nationaliste qu'en Galilée. De cette façon, ils pourront vraiment dire ce qu'ils pensent de lui. Il leur pose alors une question qui a pour but d'en préparer une autre. Matthieu laisse entendre que cette première question de Jésus au sujet de l'opinion publique n'est là que pour introduire celle qui va être adressée aux disciples. Une démarche qui fait ainsi passer d'un niveau inférieur de pensée à un niveau supérieur. Le sens du texte n'est pas que Jésus demande des renseignements objectifs à ses disciples sur ce que les gens disent à son sujet. Il leur demande ce que les gens, non, ses adversaires, pensent de lui, le Fils de l'homme. Ce titre est choisi pour amener les disciples à éventuellement confesser sa divinité dans son incarnation. Le titre « Fils de l'homme » désigne souvent, et plus précisément dans l'Ancien Testament, le juge céleste. Et dans les évangiles, sa divinité. Les disciples lui répondirent. Les uns disent Jean-Baptiste, les autres Élie, d'autres Jérémie, d'autres un des prophètes. Ces différentes opinions à l'analyse montrent que le peuple voyait que Jésus faisait des miracles au-dessus de la puissance des hommes. Il était donc un grand homme, mieux un précurseur du Messie, mais sans plus. Et vous, qui dites-vous que je suis? Voilà une question capitale pour les disciples d'alors et pour ceux de tous les temps. Pierre, prenant la parole, répond, « C'est toi le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Par cette réponse, Pierre voyait en Jésus-Christ l'accomplissement de toutes les promesses, la réalisation divine de l'ancienne alliance tout entière, le libérateur promis à Israël et au monde. La pensée du texte est celle-ci. Des hommes voient clair en tenant Jésus pour un envoyé de Dieu. Mais ils méconnaissent sa divinité et le caractère absolument décisif de sa mission. Notre péricope a donc pour but de montrer que Jésus est le révélateur des derniers jours. Un homme qui s'avance au-dessus de la solitude et de la mort est le Fils du Dieu vivant. Voilà pourquoi, à la réponse de Pierre dans Marc, « Tu es le Christ », Matthieu ajoute « Le Fils du Dieu vivant ». La mention du Dieu vivant désigne Jésus comme le représentant du Dieu qui rend présent et qui intervient dans l'histoire pour juger et sauver son peuple. En ce sens, il l'oppose à l'impuissance des idoles muettes et sans vie qu'adorent les hommes et le présente comme la source unique de la vie de l'univers, de la vie divine qui se manifestait en son Fils. Le bonheur de Pierre est d'avoir reconnu et confessé le Christ. Il a été l'objet d'une révélation divine. L'expression « le royaume des cieux » au verset 19 a à peu près le même sens que le mot « église », avec cette nuance que l'expression est plus général. Il embrasse des sphères de la vie humaine. Ce royaume, ainsi que l'Église qu'il s'agit de bâtir, est envisagé figurément comme un édifice qu'on ouvre ou ferme au moyen des clés. Posséder ces clés, c'est tout simplement avoir l'autorité d'ouvrir ou de fermer, d'admettre ou d'exclure. L'image de clé fait allusion à une autorisation, à un pouvoir fondé sur un enseignement. Après avoir comparé Pierre au rocher sur lequel l'édifice de l'Église sera bâti, Jésus l'assimile à un intendant qui administre la maison de son maître. Ce pouvoir ne fut point donné à Pierre seul et ne lui fut point conféré au moment où il entendit ces paroles, mais après qu'il eut reçu l'Esprit de Dieu. De là, l'utilisation du futur. Je te donnerai. Et non, je te donne. Je te donnerai. Ce pouvoir ne fut pas compris comme une chasse gardée de Pierre, mais comme appartenant à l'ensemble du collège apostolique, selon Matthieu 18, verset 18 et Jean 20, verset 23. Cette explication extensive m'autorise à refuter toutes les interprétations tendancieuses d'après lesquelles Pierre serait le vicaire de Christ. Christ est le chef irremplaçable de son Église. Cette interprétation ou cette explication m'autorise aussi à affirmer tout simplement que le Christ matthéen promet à Pierre l'exercice de l'autorité sur le peuple de Dieu, autorité d'enseignement, de confesseur et par là même pouvoir d'exclure ou d'introduire les hommes dans le corps du Christ, l'Église. C'est le sens que revêt les verbes liés et déliés. Que retenir au terme de cette expertise exégétique et théologique? Troisième étape, actualisation. Nous voulons juste dégager trois conclusions de cette péricope. La première, la confession de Pierre, de foi de Pierre, exprimée au nom des autres apôtres, est suivie de la vocation et de la mission que Jésus confie à Pierre. Cela nous montre que confesser que Jésus est Seigneur et Sauveur est un choix qui nous responsabilise et nous engage comme missionnaires en ce monde. En effet, c'est une petite histoire, chacun des New Yorkais qui prenait le métro à la station de la 110e rue de Manhattan pouvait lire un tag sur un mur avec cette inscription. Dieu est mort. Signé Nietzsche. Quelques jours plus tard, un passant avait écrit en dessous. Nietzsche est mort. Signé Dieu. Tous ceux qui sont passés devant ces deux inscriptions ont bien été obligés de réfléchir à leur pertinence. D'un côté, une affirmation d'un homme, philosophe réputé, qui refuse l'existence de Dieu et qui proclame sa mort. D'un autre côté, l'affirmation de l'existence d'un Dieu capable de signer la fin d'un sujet humain pensant et agissant. Devant les mutations actuelles de nos sociétés hyper-capitalistes et hyper-sécularisées, nous sommes toujours devant des choix. Dieu ou sans Dieu. Deux, le croyant ne devra jamais oublier en premier lieu que sa fonction où sa mission repose avant tout sur sa foi et non sur ses mérites. Et cette mission doit s'exercer avec la plus grande humilité, car il est au service de ses frères pour les affermir dans leur foi. Et enfin, trois, pour Jésus, refuser la croix serait entrer dans les vues trop humaines, de ceux qui n'ont qu'une image univoque et étriquée de Dieu. En revanche, ceux qui l'acceptent ou ceux qui acceptent la croix comme l'événement du salut et la confessent doivent se préparer à emprunter le chemin de la croix. Leur gloire passe par ce chemin. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Cantique 41-29, strophe 1, 3 et 4. Éclairé et rassemblé par la parole de Dieu et en communion avec l'Église universelle, confessons la foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. 45-16. Partageons par notre offrande la vie matérielle de notre Église. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Seigneur, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes les grâces dont nous avons été objets. En guise de reconnaissance, nous t'apportons ces offrandes pour qu'elles servent à l'avancement de ton règne ici-bas. Bénis toutes les œuvres de nos mains et ce pour ta gloire. Amen. C'est le moment de l'échange d'informations.
Merci d'abord à Marie-Vonne, à l'orgue, merci également à Noah et à moi-même, qui sont dans l'accueil. Et je me remercie encore une fois d'avoir lu la prédication. Je pense que c'est plutôt Sophia qui aurait dû le faire, mais bon, c'est bien. Alors, ensuite, la chorale se réunira mardi à 20h15. Le groupe de prière, mercredi à 18h. Et puis, dimanche prochain, aura lieu le culte à 10h au temple. Le couple pour les baptêmes et les confirmations des jeunes terminant leur catéchèse que nous n'avons pas pu faire à Pentecôte, donc ça sera dimanche prochain. Charlotte sera de retour cette semaine. Enfin, j'annonce bien l'Assemblée générale qui aura lieu le 6 septembre à 9h30. Si vous avez dans le hall les rapports d'activité, les rapports financiers, vous pouvez les demander et vous pouvez les lire tranquillement chez vous en lisant le texte. Pensez à, je sais qu'il y en a qui l'ont fait déjà, mais pensez bien à donner des procurations si vous pensez ne pas être présent, c'est important. Là encore, vous pouvez nous les demander sur le secrétariat. Des nouvelles plus tristes, le décès de Clémence van Bergen, hein, donc là je pense que c'est très récent. Et puis le culte d'enterrement de Madame Berthe Andlauer qui a eu lieu lundi dernier au temple à 14h. Et puis, voilà, c'est le dernier culte de cette Sophia pour cet été chez nous. Certainement pas le dernier en tout cas, mais le dernier chez nous, voilà. Je vais laisser lire ce qu'il a écrit parce que je pense que ça, je ne peux pas le lire. Par contre, moi je veux te remercier, hein, puis je te tutoie, je me permets, parce que vraiment ça a été des cultes d'une force importante. Malgré les circonstances, malgré les masses, malgré le peu d'affluence qui a su apporter de la force et puis nous amener ce message vigoureux. Alors, pour tout ça, et puis les visites, et puis les sépultures, etc., nous te remercions tous très vivement au nom du Conseil et de toute la paroisse.
Nous disons merci au Seigneur qui nous a conduits vers vous durant un mois, ou bientôt un mois, parce que je vais quitter probablement jeudi soir ou vendredi matin. Et je suis très sidéré, et je vous suis très reconnaissant pour toutes les marques, toutes les expressions de bienveillance, d'amour et de bonté que vous avez manifestées à mon égard. J'ai senti la chaleur humaine. Je me suis senti entre frères et sœurs à Christ. Et c'est l'occasion pour moi de vous exprimer de vive voix toute ma reconnaissance. Merci pour tout ce que vous avez investi, dépensé pour m'accueillir, pour rendre heureux et beau mon séjour. Je demande à Dieu le Tout-Puissant de vous arroser de ses abondantes bénédictions. C'est juste un passage d'un mois et ça m'a permis de fraterniser et de rencontrer des frères et sœurs qui sont très engagés pour la mission. Et je remercie toute la paroisse, tout le conseil presbytéral à travers Charlotte, le président, et Pierre, ainsi que tous les membres du conseil presbytéral. Puisse le Seigneur nous bénir richement pour être pour sa gloire. Merci, merci. Chez nous, en bébé, nous disons à quoi? À quoi? Est-ce que vous pouvez répéter?
À
quoi? Ça veut dire merci. Donc, à quoi kaka, ça signifie merci beaucoup. Donc, à quoi kaka, merci et à bientôt.
Vous incliner pour la prière. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui ont peur de la vie et qui vivent dans la crainte de l'avenir. Qu'elle s'en remette entre tes mains et trouve courage et persévérance. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui abusent de ton nom. Délivre-les de tout aveuglement et apprends-leur ta volonté. Pour chacune et chacun d'entre nous. Que le souffle de ton esprit nous redresse et nous pousse à témoigner de la foi sur les routes humaines. Bénis cette paroisse. Bénis chacune et chacun des membres. Nous te confions ce secteur et toute la région. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Que chacun se confie au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. reconnaissons qu'il est notre Seigneur et Sauveur. En cela, notre bonheur. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Nous chantons le dernier spontané. Un très bon dimanche dominical, un très bon dimanche et une semaine bénie, une semaine de grâce sous la haute protection divine. Merci et à bientôt.